Renaud Alberni, casque d'or. Autant vous affranchir tout de suite, Amélie Ellie n'est pas du genre à tenir un carnet de bal. Mais si vous voulez danser avec elle, c'est faisable. Il vous suffit, en cet été 1898, de vous pointer le dimanche au point du jour, pas loin de la grande jatte, au bal des vaches. Là, du premier coup d'œil, vous repérez Amélie. Des jolis mômes, il y en a plein, mais des beautés rousses comme elle, il n'y en a pas 12. Amélie flamboie, Amélie rutile, Amélie éblouit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle casque d'or. Pleine de santé, de vie et de gaieté, la miss. Une jolie petite frimousse, un beau sourire, des rondeurs agréables, une taille engageante, des jambes qui ne demandent qu'à être vues. Elle en jette, casque d'or. En plus, elle a les yeux verts, un regard amusé, qui n'a pas à se forcer beaucoup pour devenir narquois. Et pourquoi pas provoquant? Allez, vas-y si tu l'oses. C'est votre chance. Le prochain quadrille est pour vous. Vous, vous vous approchez d'Amélie, sans la quitter des yeux. D'un bon coup d'épaule, vous envoyez promener le gars avec qui elle guinchait, et, la rouflaquette fière, vous pouvez vous consacrer à la belle. Et hop, 3 secondes plus tard, vous voilà le nez par terre. Ne cherchez pas à comprendre, laissez tomber. Le beau brun, assez costaud, qui vient de vous faire valdinguer, n'est pas un marlou comme les autres. C'est Manda, plutôt élégant, vêtu d'un costume sport, la casquette posée bien en avant sur le crâne, tout le monde l'appelle l'homme. L'homme n'est pas un voyou à proprement parler. Il a un métier, ouvrier polisseur. Mais ça ne l'empêche pas de fricoter avec la bande des orthos. On sait que Manda a de l'honneur. On peut compter sur lui. L'homme est un gars régulier. Dans le cas présent, Manda est surtout un gars amoureux. Amoureux comme un fou de casque d'or. Tu danses ? Amélie réajuste bien tranquillement son chignon. L'orchestre musette attaque les lanciers. Non, tout compte fait, elle ne danse pas. Ou du moins, pas le quadrille, la polka ou la valse. Oui. Tu veux boire quelque chose ? Elle a son compte de Mélécas et de Mouminette. Elle se prend une menthe à l'eau. Sa voix est légèrement rauque. Des gouttes de sueur perlent sur son front. On va faire un tour ? L'air frais la fait frissonner. Manda n'est pas vraiment beau, mais il a du charme et des yeux sombres qui vous fixent sans détour. Casque d'or n'est pas de la dernière pluie. À 20 ans, elle a suffisamment fréquenté les maisons closes, et notamment l'hôtel du libre-échange, pour ne pas se méprendre sur les intentions de l'homme. Malgré tout, celui-là n'est pas comme les autres. Il a l'air d'en pincer vraiment pour elle. Amélie n'est pas du genre à se laisser endormir par les beaux sentiments. Alors, elle lui demande de l'embrasser. Manda n'esquisse pas un geste. Ironique, elle demande si c'est la lumière qui le gêne ou bien si... Pour que les choses soient bien claires, il fracasse le réverbère et la renverse dans ses bras. Dorénavant, elle ne pourra plus douter de sa virilité. C'est beau, l'amour. L'homme ne quitte plus casque d'or. Bien sûr, il va moins à son travail. Mais Amélie aime tant les guinches et les cafconces. Rue des Vertus, rue de Lappe, la Feria de Vincennes, la Courtille, les Gravilliers. Elle connaît tous les endroits où on peut s'amuser. Évidemment, ça coûte cher, mais on se débrouille. Surtout que, grâce à Casque d'Or, l'homme a acquis un fameux prestige auprès des gars des Orteaux, dont il devient peu à peu le chef. Pour autant, Mandat n'est pas un belliqueux. Il mène ses hommes tranquilles, sans chercher querelle aux autres bandes du quartier. Par exemple, en ce début d'année 1902, on le voit souvent jouer aux cartes avec le K, un type qui fait partie des Popincourt. Amélie aime bien le K. C'est un Corse façon ténébreux, avec moustache et yeux de braise, qui n'a pas pour habitude de laisser les dames indifférentes. Et Casque d'Or, encore moins que tout autre. Seulement, voilà, il a une régulière, la Panthère, dangereusement jalouse. Et puis, il n'ira jamais doubler un ami. Pourtant, Amélie est loin de le laisser insensible, surtout lorsque, comme en ce moment, ses pieds sous la table deviennent de plus en plus entreprenants. La Panthère jette ses cartes et commence à faire un raffut du diable avant de se jeter sur Casque d'Or qui l'accueille d'un coup de poing en pleine figure. Pour faire bonne mesure, le cas colle une bonne paire de gifles à sa femme et la renvoie à son travail. Mandat reste de marbre. Il se contente d'interroger le Corse du regard. Celui-ci le rassure. Non, il n'y a rien entre Amélie et lui. C'est la Panthère qui est devenue folle, parole d'homme. Mandat hoche la tête et, rassuré, part vaquer à ses affaires. À peine est-il sorti du bistrot, Casque d'Or éclate de rire. Le cas est bien bête d'avoir des scrupules. Croit-il que Mandat et la Panthère se gênent, eux? Le Corse reste un instant incrédule. Amélie le laisse blêmir, puis, s'humectant rêveusement les lèvres, suggère qu'après tout, il n'est peut-être pas un homme. Le cas tressaille sous l'outrage, puis très digne, entraîne Casque d'Or. Désormais, c'est lui qui la fera gâcher. Chapitre 2. Désabusé, le commissaire des Landes contemple le cas. 3 jours auparavant, le 9 janvier 1902, il y a eu une bagarre rue des Haies, à côté de Charonne. Et voilà qu'on lui signale l'arrivée à l'hôpital de Nom de ce Corse avec 2 balles dans la peau. Bien entendu, le cas est un honnête travailleur qui n'a rien à déclarer, si ce n'est qu'il a été agressé et qu'il ne porte pas plainte car il veut qu'on lui fiche la paix. Le commissaire fait une moue qui indique clairement qu'il ne gobe pas un mot de cette histoire, mais n'insiste pas, faute de preuves. Il se lève quand Casque d'Or entre dans la chambre. Sans prêter attention à la bourrique, elle se précipite au chevet de Leca. Le commissaire contemple la scène d'un œil curieux, note le signalement de la fille dans un coin de sa mémoire et disparaît. Aussitôt, le Corse bondit de son lit. Il faut déguerpir au plus vite. Le commissaire a la puce à l'oreille. Il vaut mieux aller se planquer un peu. Quelques hommes de la bande de Leca, les Popincourt, font le guet dans la rue. Ils sont inquiets. Ils ont vu des hommes de Mandat, les Orteaux, dans le coin. Ils poussent leur chef dans un fiacre qui démarre sans tarder. Mais il leur faut bientôt se rendre à l'évidence. Ils sont suivis. Galopant sur le trottoir, Mandat, Poli, son second, et le Rouget, le genou de la bande, sont à leur trousse. À hauteur du carrefour, des rues de Bagnolet et des Pyrénées, le fiacre est obligé de ralentir à cause des marchands de 4 saisons. Manda se rapproche dangereusement. À la hauteur de la station de tramway Saint-Augustin, cours de Vincennes, il parvient à sauter sur le marchepied du fiacre, à briser la vitre et à donner deux coups de couteau à Leca. Il se sauve, tandis que Polly, une hache à la main, tient tout le monde en respect, avant de détaler à son tour, suivi par le Rouget. Pour Leca, le retour à l'hôpital de Nantes est direct. Le Corse croit bientôt passer l'arme à gauche. Il fait appeler son père et lui révèle que c'est Manda qui l'a piqué, tout comme quelques jours avant, il lui a tiré dessus. Le père de Leca ne fait ni une ni deux. Il se précipite chez le commissaire des Landes et lui balance le morceau. Pendant ce temps, Manda, l'homme, envoie le Rouget en émissaire à l'hôpital. Mais il n'y a rien à négocier. Casque d'or reste avec Leca. Point à la ligne. Enfin, pas exactement. Profitant de sa toute nouvelle notoriété, acquise dans les rubriques faits divers du Petit Parisien et du Matin, qui aligne des titres sensationnels sur ses aventures tumultueuses, Amélie monte sur la scène des Bouffes du Nord, dont elle devient la vedette pour 40 francs par semaine. Les Parisiens se régalent du spectacle de celle qu'ils appellent la sauvage. Quant à Manda, il ne peut plus du tout se passer de casque d'or. Et puisque Leca ne comprend pas les choses quand elles sont demandées gentiment, il va maintenant employer les grands moyens. Tous les gars de la bande des Orteaux sont mobilisés et ratissent méthodiquement Charonne et Belleville pour débusquer un membre de la bande des Popincourt. Le Lillois et sa femme Rosa se font coincer. Manda envoie aussitôt le Rouget, porteur d'un message à Leca. S'il ne renonce pas à Casque d'or, il peut dire adieu au Lillois et à Rosa. En attendant le retour du gamin, et comme le Lillois se refuse à livrer la planque d'Amélie, Manda et Polly, pour tuer le temps, proposent une partie de manille à leurs prisonniers. Plusieurs donnes sont nécessaires pour patienter jusqu'au retour du Rouget. La réponse de Leca est claire. Si on tue le Lillois ou Rosa, il se vengera. Bref, conciliabule entre les hommes des Orteaux. Au bout du compte, Manda décide de libérer ses otages qu'il renvoie sous l'escorte du Rouget. Restés seuls, Manda et Polly commencent à faire le point de la situation. Pour activer ses réflexions, Polly sort son laguiole et entreprend d'extraire deux balles qui traînent dans son épaule. Soudain, des coups de sifflet dans la rue, une cavalcade et le commissaire des Landes surgit dans la pièce. Il cherche un couple qu'on veut tuer. Étonné, Polly pose son couteau, donne un coup de pouce à sa casquette à triple pont et il se marre. Si le commissaire était arrivé 5 minutes plus tôt, il l'aurait vu en train de taper bien tranquillement la manielle avec le Lillois et sa femme. Pas de quoi déranger la police. Furieux, le commissaire part en claquant la porte. Imperturbable, Polly recommence à se charcuter avec son laguiole, tandis que Manda sort de dessous le lit. Il jette un coup d'œil par la fenêtre et repère facilement un inspecteur qui se planque sous un porche. Dédaigneux, Manda grille une cigarette avant de filer par les toits. Rien que de penser à casque d'or, ça lui donne des ailes. Le commissaire des Landes triomphe. Non seulement Manda est sous les verrous, mais aussi Amélie Ellie, la trop fameuse casque d'or. En fait, l'arrestation de Manda, alias l'homme, s'est révélée bien moins compliquée que prévu. Il a suffi de prendre le Rouget en filature, de le suivre en train de collecter de l'argent dans tous les bals et les bouibouis de Belleville et de Charonne, puis de ne pas le perdre de vue jusqu'à Alfortville, très précisément jusqu'au débit de 20 hôtels, l'île Saint-Pierre, la plante de mandat. Étonnant mandat, cueilli juste au moment où il refuse de suivre les conseils du Rouget, qu'il exhorte à fuir en Angleterre grâce aux 25 louis qu'il lui apporte. Tout le milieu a mis la main à la poche pour lui offrir le voyage. Mais l'homme refuse, à cause de Casque d'Or, bien sûr, qu'il ne veut pas laisser à Leca, surtout depuis que les journaux ont annoncé leur mariage. Plus difficile, par contre, pour Manda, de refuser de suivre le commissaire, qui surgit, pistolet au poing, à la tête d'une brigade d'hirondelles. Mis à l'ombre, Manda ne renonce toujours pas à Casque d'Or. Pour la soustraire à Leca, il l'accuse. « Oui, monsieur le commissaire, Amélie est ma complice. Le vol de la pharmacie de la rue Saint-Onge, c'était elle et moi. Même que nous avons laissé sur place une carte de visite au nom de Smart Cambrioleur. » Deslandes est ravi. Casque d'Or lui est livré sur un plateau. Quelle belle surprise! L'arrestation d'Amélie devant un théâtre provoque un beau tollé. C'est que Casque d'Or a des relations mondaines, des gens de la haute, des aristocrates encanaillés qui vont jusqu'à offrir 300 000 francs de caution pour obtenir sa mise en liberté. Deslandes n'en a cure. Il n'a qu'une hâte, organiser une confrontation entre Manda et Amélie. L'homme ne se gêne pas pour dévisager longuement Casque d'Or. Il la regarde tant qu'il peut. Puis à la fin, il daigne s'intéresser aux questions pressantes du commissaire. « J'ai menti, j'étais jaloux, j'ai raconté n'importe quoi. Amélie n'a jamais rien fait de mal. » Deslandes a beau menacer, tempêter, s'emporter, rien n'y fait. Manda ne varie plus d'un pouce. Casque d'Or est innocente. Point. À bout d'argument, le commissaire lui lance qu'il permet ainsi à Amélie de rejoindre le cas. L'homme hausse les épaules. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche ? Force est alors de relâcher Casque d'Or. Mais les malheurs de Deslandes ne s'arrêtent pas là. Il organise une nouvelle confrontation. D'un côté, entre Manda et ceux de la bande des Orteaux qu'il a sous la main, et de l'autre côté, Leca et ceux des Popincourt. Manque de chance, Leca ne reconnaît pas Manda. Non, non, inutile d'insister, il n'a rien à reprocher à l'homme. Deslandes frise l'apoplexie. Tous ses apaches se moquent de lui. Mais non, monsieur le commissaire, pourquoi supposer une chose comme ça? À l'exception de Manda, tous sont fichus dehors, sans ménagement. Ils s'éloignent bien tranquillement du palais de justice, et dès qu'ils sont hors de vue, sur le chemin de la Bastille, ils sortent leur surin et commencent à s'expliquer entre hommes. On ramasse les cadavres, et toutes les polices de France se mettent aux trousses de Leca, qui file en Belgique. La presse se marre ou s'indigne, c'est selon, mais en tout cas, elle propulse Amélie à la une de l'actualité. Amélie qui non seulement annonce sa prochaine revue aux Bouffes du Nord, Casque d'Or et les Apaches, mais qui va être aussi immortalisée par le peintre Depré au prochain Salon des Artistes. C'en est trop pour Deslandes. Le préfet de police se charge personnellement de faire interdire la scène des Bouffes du Nord à Casque d'Or et de retirer son portrait des 6 messes du salon. Tous les journaux en redemandent. Ils sont servis au procès de Manda qui s'ouvre au début de l'été 1902. Casque d'Or, resplendissante, dans un costume vert apparemment gris, défend farouchement l'homme et rejette les torts sur Leca. Deslandes est estomaqué par par la mauvaise foi d'Amélie, qui profite de ce que son amant est à l'abri pour le charger. Pendant ce temps, à la barre, Manda se défend. « Je n'ai jamais assassiné personne. Je me suis bagarrée, c'est pas pareil. Nous nous sommes battus, le corse et moi, parce que nous avons casque d'or dans la peau. » Puis il regarde le juge. « Vous ne savez donc pas ce que c'est d'aimer une femme ?»« Peut-être bien. » En tout cas, le juge expédie Manda à Cayenne et à perpétuité. Deslandes est satisfait. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le cas se fait pincer en Belgique. Extradition, procès. Bien évidemment, Casque d'Or le défend. Le cas prend 8 ans de travaux forcés à Cayenne. En attendant d'être déporté, il épouse en prison la Panthère. Les deux hommes embarquent sur le navire La Loire, qui les emmène en détention. Ils ne s'adressent pas la parole, ils n'ont rien à se dire. Ils aiment la même femme, voilà. Loin de Casque d'Or, de toute façon, la vie est un bagne. Remarque, le cas s'évadera de Cayenne peu de temps avant sa libération en 1912 pour retrouver Casque d'Or au moment même où la Panthère venait le rejoindre en Guyane. Il fut tué quelques semaines plus tard par des chercheurs d'or. Manda devint infirmier au bagne. Libéré, il resta à Cayenne où il mourut rapidement. Après avoir inspiré 6 pièces en 1902-1903, la popularité de Casque d'Or s'estompa rapidement. Sous le nom de Casque d'Or la Tigresse, elle devint dresseuse de fauves à la fête de la nation. C'est là que pour venger Manda, le Rouget la poignardera. Mais elle survécut pour finir par épouser M. Henri Nardin le 27 janvier 1917 à la mairie du 20e. Jusqu'à sa mort, le 16 avril 1933, Casque d'Or se consacra à la vente d'étoffes et de bonneteries sur les marchés de Charonne, Bagnolet, Montreuil, les Lilas. Ainsi, Casque d'Or finit bien par grisonner. Fin de l'histoire de Casque d'Or de Renaud Alberni.